Le journal. Le 8h présenté par Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand les cancers se multiplient dans un même secteur et touchent les enfants, après la Loire-Atlantique, des villages de l'Eure s'inquiètent. 7 enfants touchés par des cancers pédiatriques dans un rayon de 3 km. L'Agence régionale de santé ouvre une enquête. Où s'arrête la vigilance et où commence la délation? Question délicate après l'attaque à la préfecture de police de Paris et l'appel d'Emmanuel Macron hier à repérer les signaux faibles de radicalisation. Lui a été confronté aux pires attentats qu'ait connu la France en temps de paix. Votre invité le raconte dans un livre. Il sera dans ce studio dans 20 minutes.
Oui, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui publie donc à l'épreuve de la violence Beauvau, avril 2014, 2 décembre 2015. C'est aux éditions Stock. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez au 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, 14 milliards de dollars à trouver pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le monde. Sommet à Lyon aujourd'hui. Et reportage en Côte d'Ivoire où les traitements sont gratuits. L'Équateur face à la hausse massive du prix de l'essence, manifestations monstres et violences. Les réserves du Louvre qui déménagent dans le Pas-de-Calais à Liévin et des ballons qui glissent comme des savonnettes à la Coupe du Monde de rugby au Japon.
France Inter.
Pourquoi nos enfants sont-ils malades? Après les parents du secteur de Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique où 17 enfants sont atteints de cancer, on en avait parlé. Le mystère touche cette fois trois communes de l'Eure, Igoville, Pont-de-l'Arche et Gouy, un peu plus de 6000 habitants, dont 7 enfants malades du cancer. C'est une mère qui s'en est aperçue. Elle demande aujourd'hui, avec d'autres parents, l'ouverture d'une étude épidémiologique pour comprendre. Delphine Evenou.
Il y a 3 semaines, Charlène accompagne sa fille de 5 ans atteinte d'un neuroblastome au CHU de Rouen pour son traitement et autour d'un café avec d'autres parents.
J'ai une maman qui me dit « Enfin, moi je me pose des questions parce que je connais 2 autres enfants en plus du mien qui habitent dans ma commune. » Donc Pont-de-l'Arche, sachant que c'est vraiment la ville voisine, je lui dis « J'habite à Igoville. » Donc elle me répond « Bon, bah voilà, ça fait 4. »
Charlène se renseigne auprès de ses voisins. Elle finit par trouver 7 cas de cancer pédiatrique chez des enfants qui habitent ou sont gardés à Igoville, Pont-de-l'Arche et Gouy. 2 autres dossiers sont en cours de vérification. Des enfants âgés de 5 à 11 ans, dont le fils de Coralie, atteint d'un lymphome rare.
Quand on commence à se dire qu'il y a peut-être une raison à tout ça et un coupable, hein, ça change tout. Et puis, c'est très préoccupant. Alors, c'est pas pour Marcus. Hein. Marcus, ça y est, son cancer, il l'a eu. Mais c'est pour les autres enfants que ça m'inquiète.
Site industriel, zone d'épandage, trafic autoroutier, les parents n'avancent pour l'instant aucune piste. Il s'agit surtout de mettre en place un dossier solide, explique Charlène.
Si les parents se sentent concernés, habitent dans notre secteur, surtout qu'il faut qu'ils me contactent pour que j'ai plus de cordes à mon arc, pour que vraiment personne ne puisse reculer, nous dire c'est qu'une coïncidence.
Elle vient de contacter l'Agence régionale de santé pour qu'une enquête épidémiologique soit lancée et valide ou non le signalement.
L'ARS qui vient justement de lancer cette enquête portant désormais sur 8 enfants âgés de 5 à 11 ans représentant 4 types de cancers pédiatriques différents. À Rouen, c'est Lubrizol qui continue à inquiéter malgré les analyses rassurantes des autorités. Hier, plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté, persuadées qu'on leur cache une partie de la vérité sur l'incendie. 130 plaintes ont été déposées alors que la gendarmerie et la police commencent tout juste à investiguer sur le site, maintenant que les derniers foyers de chaleur ont été refroidis.
Il est 8h04, faire bloc contre l'hydre islamiste.
Et bâtir une société de vigilance, a dit hier Emmanuel Macron lors de son hommage aux 4 policiers tués à la préfecture de police de Paris, à l'école, au travail, dans les lieux de culte. Il appelle à repérer les signaux faibles de radicalisation. Mais comment, dans ce contexte, ne pas tomber dans la paranoïa et la délation? C'est toute la difficulté, selon Laurent Berger, le patron de la CFDT.
Évidemment, on veut de la vigilance dans les services public et notamment dans la police. C'est une évidence après ce qui vient de se passer. Mais il faudra faire attention à ce que cette vigilance ne devienne pas de la suspicion. Qui n'a pas pris des transports en commun après une attaque de transports en commun? Qui n'y a pas pensé dans une salle de spectacle, etc. Donc forcément que les Français, après de tels drames, vivent avec ce type de sentiment. Mais ce sentiment, il ne doit pas nous empêcher de vivre sereinement en société et de respecter les libertés élémentaires.
Voilà, Laurent Berger au micro de Jean Lemarie. Son inquiétude, l'islamologue Rachid Benzine, joint par Yann Gallic, la partage. Il craint que les musulmans soient trop facilement montrés du doigt.
Le grand risque, c'est de voir dans chaque musulman une menace. Et cela ne constitue pas seulement une injustice, mais représente un vrai danger, celle de mettre en place une société de la suspicion permanente, de la surveillance des uns et des autres, bref, de la délation. Et se lancer dans une sorte de chasse aux sorcières pour tenter de débusquer les musulmans susceptibles de verser dans l'islam radical serait une pure folie. Ce qui est autre chose que de travailler sur les réseaux terroristes. C'est-à-dire que cette guerre contre l'islamisme ne se gagnera pas en France et ailleurs dans le monde sans les musulmans.
Et parmi les dysfonctionnements repérés dans le signalement du tueur de la préfecture, ce contrôle d'habilitation secret défense qui aurait dû être refait lorsque Michael Harpon s'est marié en 2014 et qui ne l'a pas été, a expliqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, auditionné hier devant la commission des lois de l'Assemblée. 6 policiers de Seine-Saint-Denis en garde à vue, accusé d'avoir frappé un jeune homme début août à Saint-Ouen. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Dans sa plainte, l'homme déclare avoir reçu des coups de pied et des coups de taser sur les parties génitales dans le fourgon qui le menait au commissariat. Selon le parquet de Bobigny, les policiers sont également soupçonnés de faux en écriture publique et vol. État de siège et couvre-feu à Quito en Équateur, où les manifestations se multiplient contre la forte hausse du prix de l'essence, plus 123% après l'arrêt des subventions publiques sur les carburants en échange de nouveaux crédits du FMI. Le mouvement est massif, porté par les indigènes d'Équateur. Ils appellent aujourd'hui à une grève générale, alors qu'hier, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut le Parlement. Reportage à Quito, signé Eric Sanson.
Des milliers d'Indiens sont arrivés mardi à Quito. Leur intention, occuper la capitale suffisamment longtemps pour obliger le président Moreno à abroger les mesures économiques annoncées la semaine dernière, et notamment la fin de la subvention sur les carburants. Yacu Pérez, préfet indigène de la Suaï.
C'est la lutte pacifique des peuples ancestraux qui se soulèvent et demandent une fois pour toutes la fin de l'accord signé avec le Fonds monétaire international. Nous allons paralyser pacifiquement tout le pays car nous exigeons du gouvernement l'abandon des mesures de ce choc économique.
Mardi soir, la police a expulsé les Indiens du parc de l'Arbolito, leur lieu traditionnel de concentration. Elle souhaitait protéger l'Assemblée nationale, brièvement occupée mardi par des manifestants, et faire respecter le couvre-feu décrété dans la zone. Militante aguerrie de la lutte contre les entreprises minières, l'indigène Dolores Peralta n'était pas impressionnée.
Eux, avec leur gaz lacrymogène, ils veulent nous vaincre. Mais les femmes indigènes, nous avons appris à nous défendre avec de l'eau de piment. Ça pique quand on l'envoie dans les yeux.
Dans quelques heures, les Indiens vont essayer de se rendre vers le palais présidentiel, déserté par le chef de l'État, mais toujours protégé par des tanks et des centaines de policiers. Quito, Éric Sanson, France Inter.
Et après les incidents, le gouvernement a décrété l'état d'urgence et s'est délocalisé dans la ville côtière de Guayaquil.
Il est 8h09, la Turquie n'a pas le feu vert des États-Unis pour envahir le nord de la Syrie.
Nouvelle mise au point à Washington dans un tweet d'un sénateur républicain proche de Donald Trump. Pourtant, la tension continue de monter autour de la frontière entre les deux pays. Frontière que l'armée turque va franchir sous peu, annonce cette nuit la présidence à Ankara, qui demande aux combattants kurdes de quitter la zone. Face à cette offensive imminente, Donald Trump répète de son côté qu'il n'est pas question d'abandonner les Kurdes qui sont, écrit-il, des gens formidables et de merveilleux combattants. Sur le front intérieur aux États-Unis, Trump a décidé de la jouer frontale en refusant toute coopération de la Maison-Blanche à l'enquête du Congrès sur ses échanges avec l'Ukraine, préalable à une procédure de destitution. Retour de Nancy Pelosi, chef des démocrates au Congrès, ce refus est illégal. Le sida et ses 36 millions de personnes infectées dans le monde, dont 70% en Afrique subsaharienne. Le paludisme qui menace 40% de la population. La tuberculose et ses 10 millions de malades chaque année. Trois fléaux que l'on pourrait mieux soigner à défaut de les éviter. C'est l'objectif d'une conférence mondiale qui se tiendra aujourd'hui et demain à Lyon en présence d'Emmanuel Macron. Il faudrait récolter 14 milliards de dollars pour les 3 années qui viennent. Et voici l'illustration sur le terrain de l'utilisation de cet argent. En Côte d'Ivoire, où s'est rendue Solène Lehen, les traitements sont désormais gratuits pour les malades du VIH, de la tuberculose et du palu. Reportage.
Sidiki Diarra est encore faible, mais il est en voie de guérison. Il entame son 5e mois de traitement contre la tuberculose, des médicaments qu'il n'a pas payés.
On ne paye rien, c'est gratuit. Je n'ai aucune idée du prix.
Aucune idée du prix, même chose pour Bernard Kanga à propos des antirétroviraux, médicaments contre le VIH. Pourtant, il en distribue tous les jours, il est pharmacien.
Cette boîte-là, le patient prend un comprimé au coucher, mais je ne sais même pas combien ça coûte.
Vous ne savez pas combien ça coûte ?
Non.
La réponse, c'est Ange-Désiré Yapi, directeur général de la pharmacie nationale, qui la donne.
Au début, les traitements étaient à peu près 450 euros mensuellement. Une très bonne partie de la population ne peut pas se le permettre. Donc ça a quand même permis d'améliorer la survie des populations.
En effet, en Côte d'Ivoire, la mortalité a chuté de moitié pour le sida entre 2007 et 2017, de 16% pour la tuberculose entre 2010 et 2017, et même pour le paludisme de 73% sur la même période. C'est le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui paye en très grande partie ces médicaments. Il finance également d'autres programmes plus spécifiques, gérés notamment par un organisme public français, Expertise France, programme de prévention ou encore de réduction des risques auprès des populations vulnérables.
Reportage signé Solène Lehen. L'Assemblée lundi, le Sénat aujourd'hui, nouveau débat sur l'immigration. On n'y parlera sans doute pas de ces rendez-vous que les étrangers ont tant de mal à obtenir dans les préfectures d'Île-de-France pour régulariser leur situation. Une cinquantaine de recours seront déposés contre l'État aujourd'hui contre la dématérialisation des services sur Internet censés régler le problème des interminables files d'attente devant les préfectures mais qui se traduit par des mois de siège numérique pour obtenir un rendez-vous.
Connaissez-vous, il est 8h12, la différence entre les bons et les mauvais chasseurs ?
Alors, ce n'est pas le sketch des inconnus, mais la réponse est très claire. Dans l'Oise, où il y a ceux qui chassent à l'ancienne et ceux qui tirent dans le tas sur des lâchers de sangliers, deux parcs à sangliers clandestins viennent d'y être démantelés. Explication signée Thibault Lefebvre.
Une femelle en chaleur, enfermée dans un enclos pour servir d'appât. C'est la méthode imaginé par les braconniers du premier parc clandestin. Marc Morgan est le directeur de la Fédération de chasse de l'Oise.
Il n'y a que la femelle qui est en cache et tout le reste, c'est les animaux sauvages qui vont être attirés à cet endroit-là. Comme vous, vous chassez à cet endroit-là, vous êtes quasiment sûr d'assurer votre tableau de chasse. C'est pas une chasse naturelle, c'est une chasse artificielle.
La deuxième méthode s'apparente, elle, plus au tir au pigeon qu'à la chasse aux sangliers.
Vous avez des enclos dans lesquels vous introduisez en fait des animaux dont on ne connaît pas la provenance. Et au moment de la chasse, vous ouvrez l'enclos et du coup, les animaux sortent de l'enclos, ils passent dans les lignes de tir. Ils se font tuer ou pas en fonction de l'habileté du chasseur.
Le propriétaire de l'enclos a été traqué pendant un an par la Fédération de chasse de l'Oise. Il a ensuite été poursuivi en justice avant d'être finalement relaxé.
Cette décision du tribunal reste scandaleuse. Tuer un sanglier, quel est le problème ? On tue 750 000 en France, tout le monde dit qu'il y en a trop. Alors un de plus, un de moins, c'est pas considéré comme une affaire grave pour la société. Par contre, pour la société des chasseurs, c'est très grave.
Pour les chasseurs et aussi pour les éleveurs, car la peste porcine sévit actuellement en Belgique et l'importation illégale de sangliers dans des parcs clandestins pourrait favoriser sa propagation en France.
Pas de chance pour les Bleus. Kylian Mbappé forfait pour les prochains matchs qualificatifs pour l'Euro 2020. Pas là dans deux jours face à l'Islande, ni la semaine prochaine face à la Turquie. Il n'est pas suffisamment remis de sa blessure à la cuisse qui remonte à la fin du mois d'août. Chacun ces petits soucis techniques et thermiques, hein, un peu dans chaque profession ici à France Inter, c'est la climatisation dans le studio, trop froid, trop chaud, dans Coupe du Monde de rugby, c'est probablement plus problématique, c'est 80% de taux d'humidité dans l'air qui font glisser les ballons ovales comme des savonnettes, Jérôme Val.
Ça arrive même au plus grand. Le Néo-Zélandais Boden Barrett, deux fois élu meilleur joueur du monde, qui relâche le ballon lors d'un essai touffé. Ce ballon, insaisissable dans la moiteur japonaise, alors à chacun sa technique pour s'y habituer ou tenter de le faire, même les plus originales. Les Écossais versent du shampoing sur le ballon pendant l'échauffement. Le sélectionneur français Jacques Brunel, lui, assure qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
On peut tremper le ballon dans les seaux, et effectivement, mais bon, on a essayé de mettre un cadre le plus parfait possible, et malgré ça, il y a un petit handicap. Voilà.
Il y a l'autre méthode à l'ancienne, mettre de la colle sur les mains, mais le troisième ligne, Charles Olivon, n'est pas un grand fan.
Il y en a qui en mettent, moi je déteste, je supporte pas avoir de la colle sur mes mains. J'aime bien avoir le toucher naturel, j'aime pas avoir de la colle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de joueurs qui rentrent avec les mains pleines de colle, mais c'est pas du tout pour moi.
Cette humidité étouffante qui trempe les corps, qui met le ballon dans tous ses états, oblige aussi à changer sa façon de faire, détaille le troisième ligne, Grégory Aldrit.
Quand on reçoit une passe ou quoi, il faut être un peu plus concentré à la réception plutôt qu'en face. Donc des fois,
On reçoit le ballon et ensuite on a un temps de réaction face à la défense qui monte, qui est plus petit que quand le ballon est sec.
L'automne a pointé son nez, mais trop timidement. Les conditions météo sont toujours aussi intenses. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
Mais comment créer un ballon qui ne glisserait en aucune circonstance? En voilà une idée pour le Britannique qui a remporté les 190 millions de l'Euromillion hier soir à fond et à temps perdu. Il peut toujours se lancer dans cette aventure de ballon de rugby. En tout cas, voilà, ce n'est ni vous, ni moi,
oui, effectivement.
Nicolas, qui avons remporté le jackpot.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Le ciel, Stéphanie, est très largement agité.
Et la perturbation d'hier a gagné du terrain. On la retrouve ce matin du sud-ouest à l'Auvergne, accompagnée de pluies éparses ce matin, plus soutenues, du Jura vers le Lyonnais et le nord des Alpes, où il neigera en fin de matinée des 2400 mètres. Ailleurs, les nuages dominent, laissant parfois passer quelques rayons de soleil ce matin sur la Provence, la Côte d'Azur et l'est de la Corse. En revanche, sur les régions allant du nord-ouest vers l'Île-de-France et les frontières du nord, ce ciel d'averse se renforce. Les pluies éparses du matin se feront plus fréquentes et orageuses près des côtes de la Manche. Cet après-midi, sur la moitié nord et le massif central, le ciel restera agité avec des averses, des orages, du vent, pouvant souffler par rafale de 70 km par heure. Il pleuvra du nord des Alpes jusqu'aux Hautes-Alpes et la limite pluie-neige s'abaissera à 2200 mètres. En revanche, autour de la Méditerranée, près de l'océan et sur le sud-ouest, le ciel plus clément laissera passer quelques timides éclaircies.
Les températures baissent dans l'après-midi.
Ce matin, Mercure est encore clément avec 9 à 14 degrés en général, 9 à Gap comme à Blois, 14 à Nice et à Agen. Les pluies, les orages et le vent vont faire trébucher Mercure en milieu de journée, notamment dans le nord où vous ne dépasserez pas les 13 à 18 degrés. Il fera 13 degrés à Senlis, 14 à Épinal, 16 à Paris et vous flirterez avec les normales de saison dans le sud-ouest avec 18 à Jarnac et 19 à Biarritz. Le sud-est conserve une belle journée avec 22 à Avignon, voire 23 à Toulon.